Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue dans cette édition de midi au micro Lievin Bouinga. À la une de l'actualité, encore et toujours le drame de Makala, la surpopulation carcérale citée parmi les causes qui justifient le nombre élevé des morts dans cette prison. C'est en tout cas ce que pense Maître William Wenga de Human Rescue DRC. Nous allons l'entendre dans ce journal. Reprise imminente de l'opération d'indemnisation des victimes de guerre de Kisangani, annonce faite par le coordonnateur ad intérim du Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. C'était au cours d'un point de presse organisé au siège de cet établissement public de la province de la Tchopo. Au lendemain des événements malheureux de la prison centrale de Makala, l'ONG Enfants Avenir se prononce. ENAV déplore la situation alarmante des femmes et filles détenues. Son coordonnateur ad intérim parle de plus de 300 femmes et filles violées à la suite de cet incident. Maître Pierre Bibombé est l'invité de Radio Kapi. La surpopulation carcérale est citée parmi les causes qui justifient le nombre élevé des morts dans la prison centrale de Makala. C'est en tout cas ce que pense Maître William Wenga de Human Rescue DRC, qui se définit comme une organisation nationale de protection et promotion des droits de l'homme. Par ailleurs, il estime que ce qui s'est passé constitue un crime d'État. Il appelle à une enquête internationale qui ferait la lumière sur ce drame pour que les auteurs soient sanctionnés. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont déjà purgé leur peine. Mais faute d'une administration pénitentiaire lente, ils sont restés détenus injustement, sans oublier les cas des innocents qui n'ont jamais bénéficié d'un procès. Il y a aussi les cas bénins. Peut-être il a volé juste une poule, il s'est chamaillé avec son ami, bon, il a des problèmes avec sa femme. Et d'un coup, il se retrouve à Makala. Un mois, deux mois, six mois, une année, deux ans. Et c'est la raison pour laquelle nous parlions toujours d'une surpopulation dans cette prison centrale de Makala. D'emblée, nous pensons déjà qu'il s'agissait de crimes d'État. Parce qu'on s'imagine, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, quelqu'un qui est en fuite ou bien il est déjà évadé, il doit se retrouver à l'extérieur de la prison, mais pas à l'intérieur. Mais quand quelqu'un est décédé à l'intérieur de la prison, il y a anguille sur roche. C'est là où nous voulions qu'il y ait vraiment des enquêtes internationales pour élucider toute cette situation et que les responsables puissent être punis.
Affaire prison centrale de Makala toujours, des réactions fusent de partout. Plusieurs personnalités et acteurs politiques du pays condamnent ce qu'ils qualifient de massacre ou carnage des détenus. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo et Claudel André Loubaya, pour ne citer que cela, dénoncent selon eux l'indifférence du gouvernement face aux conditions carcérales infrahumaines et exigent que justice soit faite. Moïse Katumbi, par exemple, appelle à la mise en place d'une commission d'enquête sérieuse associant la MONUSCO et des représentants des ONG de droits de l'homme pour faire éclater toute la lumière sur ce drame. Les réactions des uns des autres avec Grace Hamzati.
Moïse Katumbi déplore, je le cite, « la surpopulation, la faim, la maladie, le manque total d'hygiène ont été dénoncés, images à l'appui. Mais les pouvoirs publics ont préféré ignorer ces avertissements. Le pire est finalement arrivé. Plusieurs dizaines de prisonniers ont été abattus comme des animaux dans une barbarie insupportable. » Fin de citation. De son côté, Martin Fayoulou écrit « ces exécutions sommaires sont un crime inacceptable qui ne peut rester impuni ». Pour sa part, le docteur Denis Mukwege dénonce la banalisation de la vie ainsi que le mépris de la dignité humaine et le piétinement des droits fondamentaux des citoyens en toute impunité constatée au pays. Le prix Nobel de la paix renchérit, c'est à chacun de nous et à nous tous de dire non et de faire comprendre aux dirigeants de notre pays que trop c'est trop, la vie humaine est sacrée. Par ailleurs, tout en exigeant des enquêtes indépendantes, l'ancien premier ministre Matata Ponyo-Mapon affirme que ces tueries tragiques aurait pu être évité par l'exercice d'une politique d'anticipation à travers une gouvernance de qualité. Dans la foulée, l'acteur politique Claudel André Loubaya lance, je le cite, « il faut des mesures et non des mesurettes ». Fin de citation. Face à la gravité de la situation, le gouvernement se doit sans populisme collégien d'éviter les faux fuyants et de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé, en établir les responsabilités et en tirer toutes les conséquences, déclare-t-il.
Autre position, c'est celle de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kaboun, détenu justement dans cette maison carcérale. Dans une déclaration relative à ce que certains qualifient de carnage, elle rejette catégoriquement le chiffre de morts annoncé par les autorités. Ce n'est pas tout, l'Alliance pour le changement dénonce aussi ce qu'elle qualifie de tentative d'assassinat de Jean-Marc Kaboun à Kaboun, tout en exigeant sa libération immédiate. On écoute Guy Roger Nkoy, le porte-parole de cette formation politique.
Le parti politique Alliance pour le changement rejette en bloc les bilans fantaisistes du gouvernement congolais faisant état de 129 morts et fustige le silence d'un gouvernement dirigé par une femme sur les cas de viols perpétrés lors de ces événements. Face à cette situation ténébreuse et chaotique qui constitue un crime odieux, le parti politique Alliance pour le changement met en garde le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur toute tentative d'élimination physique de l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun, président national, incarcéré injustement depuis plus de 2 ans à la prison centrale de Makala. Considérant la détérioration des conditions carcérales, sécuritaires d'une part, et de l'injustice que subit l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun d'autre part, nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale sur les menaces de mort qui guettent le président national de notre formation politique. À cet effet, nous exigeons sa libération immédiate et sans condition.
Justice encore, verdict attendu le 13 septembre prochain au procès des présumés auteurs de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa. Hier, à la prison militaire de Ndolo, le tribunal militaire a pris l'affaire en délibéré et clôt définitivement les débats. C'était au terme des plaidoiries des avocats de la défense de la réplique du ministère public qui a reconduit ce réquisitoire. Toute la défense a plaidé non coupable et pour l'acquittement des prévenus. Rappelons que c'est depuis le 7 juin que ce procès a été ouvert. 51 personnes ayant comparu sont accusées de 7 infractions, à savoir meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, tentative d'assassinat, terrorisme, attentat et financement de terrorisme. Autre titre de l'actualité, reprise imminente de l'opération d'indemnisation des victimes de guerre de Kisangani d'ici 4 matins, annonce faite par le coordonnateur ad intérim du Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. C'était hier mardi au cours d'un point de presse organisé au siège de cet établissement public de la province de la Tshopo. Selon Chansar Bolukola, chaque victime certifiée recevra une somme de 2 000 $ américains au lieu de 300 à 400 dollars que remettait le comité sortant. Il précise que ceux qui en avaient déjà auront droit à un complément pour atteindre les 2 000 $ tel que décidé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, lors de son dernier passage à Kisangani. Inquiétude de la plateforme Comprendre et Agir dans le secteur minier industriel et artisanal, Casmia. Cette structure se dit préoccupée par la non-prise en compte de la province du Lualaba dans la réalisation des ouvrages dans le cadre du projet sino-congolais entre le gouvernement et l'entreprise minière Sicomine. Pour cette ONG, les 2 décaissements du Lualaba ne sont pas pris en compte, bien que ces populations soient les premières à être directement impactées par cette exploitation minière. Cosmia l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kolwezi. On écoute le coordonnateur national de cette plateforme, Shadrach Moukad, joint par Jean Gandou.
Il se dégage que la province du Lualaba, bien que la productrice de ses richesses, elle est laissée pour compte. La première tranche de 324 millions n'avait pas tenu compte de la province du Lualaba et la dernière tranche de 300 millions pour l'année 2024, et Lualaba est toujours laissée pour compte. Voilà pourquoi nous dénonçons ce caractère discriminatoire et injuste et nous demandons que cet aspect des choses soit corrigé. Le Lualaba ne peut pas être utilisé seulement comme province laitière ou vache laitière, mais elle doit aussi être la privilégiée dans la réalisation de ces projets dans le cadre du contrat sino-congolais. Vous savez, la province du Lualaba éprouve aussi des difficultés. La province du Lualaba a des routes. La nationale numéro 39 de Kolwezi à Dilolo et de Kasaji à Kapanga, elle n'est pas construite. Elle nécessite vraiment un financement approprié pour sa réalisation. Il y a aussi des routes de dessertes agricoles qu'il faudra que la province s'en occupe.
Et puis cette rupture qui ne passe pas inaperçue, la République démocratique du Congo a annulé son projet de 1,2 milliard de dollars américains visant à mettre en place un système national d'identification biométrique plusieurs mois après que l'inspection générale des finances eut mis en garde contre des dépassements de coûts et de possibles irrégularités de financement, rapporte l'agence Bloomberg. Le contrat qui aurait permis aux fournisseurs français de biométrie IDEMIA de construire un registre civil et d'imprimer des cartes d'identité par le biais d'intermédiaires Afritech a été annulé le 12 août dernier, selon Richard Ilunga, directeur général de l'Office national d'identification de la population du Congo. Le contrat a été annulé par consentement mutuel le 2 août 2024. L'inspection générale des finances avait interrompu la poursuite de prestations de la société Afritech IDEMIA, partenaire de l'ONUP, à la suite des irrégularités constatées dans le contrat. Santé, le centre provincial de transfusion sanguine en manque criant de sang au Nord Kivu. La responsable de cette structure qui tire la sonnette d'alarme parle d'une situation alarmante et catastrophique jamais vécue depuis 17 ans. Elle appelle à une assistance immédiate du gouvernement et de différents partenaires pour sauver des milliers de vies humaines en danger. Le point avec Gabriel Ouaménia.
La banque du sang du centre provincial des transfusions sanguines, tout groupe confondu, est actuellement vidée de ses réserves de sang. Cette situation est similaire dans toutes les structures médicales de la province, précise le docteur Liliane Bouiza.
Nous sommes en pénurie de sang, presque pour tout le groupe sanguin. On n'arrive plus à servir les demandes des hôpitaux. Et ce n'est pas seulement à Goma, c'est aussi dans toute la province.
Pour l'instant, la situation est catastrophique et des cas de décès dus à cette carence en sang sont rapportés dans plusieurs structures médicales à travers la province, affirme Dr Liliane Bouiza.
Nous sommes à une situation alarmante, une situation catastrophique. Je peux vous dire que nous avons commencé à enregistrer des décès et ça, c'est vraiment du jamais vu.
Selon le Dr Liliane, la réponse des autorités provinciales à cette épineuse question tarde encore à venir. Tous nos efforts pour avoir la réaction des autorités sanitaires en province n'ont pas abouti. Goma, Gabriel Ouaméni, Radio Okapi.
Deux morts et des dégâts matériels importants, c'est le bilan d'un incendie qui se produit dans un bar à Bukavu. L'incident s'est passé hier mardi sur l'avenue Calais, commune d'Ibanda, dans cette ville du sud Kivu. Les victimes sont des jeunes filles employées comme serveuses dans ce bistrot. L'incendie s'est déclaré à l'étage où les victimes se reposaient. Même les maisons environnantes, y compris une église, ont été touchées. Le camion anti-incendie de la commune est intervenu pour limiter l'extension de feu. Comment se déroule le commerce frontalier entre la RDC et l'Angola, précisément au niveau de Lufu, dans le Congo central? Et surtout, comment atteindre ce lieu? En tout cas, des centaines d'hommes, femmes, jeunes font du commerce et l'une des activités les plus rentables est la vente de divers produits dans cette ville frontalière angolaise de Lufu, située à près de 175 km de Matadi, centre en RDC. Mais pour atteindre cette ville, il faut faire face à une rude épreuve, le transport. Karine Topéridassi est sur place et nous explique. Suivez.
Chaque jour, de centaines de personnes quittent Matadi et se rendent dans la ville angolaise de Lufu pour se procurer certains articles qui se négocient à de vils prix. Mais les moyens de transport pour se rendre à cet endroit prisé par plusieurs posent problème. Certains conducteurs de taxi décident de maximiser leurs recettes en transportant plus de passagers, les confinant dans des conditions qui laissent à désirer. Certains embarquent jusqu'à 7 passagers pour des véhicules de 4 places, avec notamment 2 personnes sur le siège avant, 3 ou 4 sur le siège arrière et 3 autres dans le capot de la voiture, en principe réservé pour les marchandises. Les passagers assis sous le capot gardent leurs jambes suspendues en l'air en dehors du véhicule. Ils enlèvent leurs chaussures pour ne pas les perdre sur le chemin à cause du vent. Certains portent des chaussettes. Sur tout le parcours, ces voyageurs perchés à l'arrière sont obligés de tenir le capot et de le garder suspendu pour ne pas manquer d'air. Matadi, Karine Topé, Radio Okapi.
Sport éliminatoire Cannes 2025, les Léopards se sont entraînés cet avant-midi au Stade des Martyrs sous la conduite du sélectionneur Sébastien Desabres. 24 joueurs ont pris part à cette séance, sauf Nathanaël Mboukou qui pourra arriver à Kinshasa ce mercredi. L'équipe nationale se prépare pour recevoir le Sili national de la Guinée en vendredi 6 septembre à 17h au Stade des Martyrs en match de la première journée. Le coach de la RDC a déclaré dans une interview avec la cellule de communication de la FECOFA vouloir démarrer la campagne de qualification à la CAN Maroc 2025 avec le plus de sérieux possible. Sébastien Desabres dans cet extrait choisi par Vanessa Nkongolo.
On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. Favori, en tout cas, nous, ce qui nous va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Combat, voilà, ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mais c'est un long chemin avec des étapes. Il y a une première étape, c'est la qualification. Il n'y a que 2 qualifiés sur 4 équipes, tout le monde le sait. Donc à nous d'être le plus performant possible sur ces 6 matchs, notamment sur les 2 matchs de ce mois-ci.
Actualité internationale.
Dans la ville de Maridi, au Soudan du Sud, le tribunal martial juge des soldats accusés de faits graves au cours d'une journée de procès. Plusieurs ont été condamnés à de lourdes peines. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, une des voix clés de son pays depuis le début de l'invasion russe, a demandé ce mercredi 4 septembre au Parlement d'accepter sa démission, a annoncé sur les réseaux sociaux le président de l'Assemblée en publiant la lettre du ministre. Qui a écrit « Je vous demande d'accepter ma démission ». Dans cette lettre, ce ministre populaire qui occupait ce poste depuis 2020 et dont la démission intervient en plein remaniement ministériel au sein du gouvernement ukrainien.
L'invité.
Au lendemain de la tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala, l'ONG Enfants Avenir déplore la situation alarmante des femmes et filles détenues. Invité de Radio Kapi, le coordonnateur de cette structure, Maître Pierre Bibombé, affirme avoir eu écho de plus de 300 femmes et filles victimes de viols à la suite de cet incident. Il demande ainsi au gouvernement de permettre aux ONG et humanitaires d'accéder dans cette maison en vue d'apporter la prise en charge holistique à ces survivantes. Maître Pierre Bibombé s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Maître Pierre Bibombé.
Bonjour Monsieur Blaise.
Quelle analyse portez-vous sur la tentative d'évasion massive perpétrée dans la nuit du dimanche à lundi dernier à la prison centrale de Makala?
Oui, à notre niveau, c'est une analyse triste par rapport à cette situation qui prévaut à la prison centrale de Makala, où on signale les nombres des morts, on signale les cas de violences faites sur les femmes, donc. En l'occurrence, c'est le cas des viols massifs. C'est une situation tellement alarmante par le simple fait que les prisonniers aujourd'hui qui ont perdu leur vie par rapport à cette tentative d'évasion, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, ce que nous pouvons dire à ce stade par rapport aux informations recoupées, c'est que les autorités d'abord rétablissent l'ordre. Parce que l'accès à la prison pour le moment, même par rapport à la population environnante, est tellement limité.
Mais le gouvernement affirme avoir déjà rétabli l'ordre.
Par rapport à ce que nous avons reçu comme information de la part de la population environnante, l'ordre n'est pas toujours pas rétabli jusqu'à ce niveau. Parce qu'il y a même des informations selon lesquelles plus de 300 femmes seraient violées de manière massive par les co-détenus dans cette situation de confusion. Alors nous nous demandons si ces survivantes-là sont encore détenues à la prison, quel est leur sort par rapport à leur prise en charge.
Maître, vous, de qui vous avez eu toutes ces informations en parlant de plus de 300 femmes victimes de viols?
Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Lorsqu'il y a une telle situation, d'abord il y a des détenus eux-mêmes qui sont en prison, qui communiquent ce qui se passe à l'intérieur, la population environnante. On relève les cas de viols massifs sur les femmes. Nous, nous sommes sensibles par rapport à la situation des droits des femmes, des droits des filles. Lorsque nous apprenons qu'il y a des cas de viol commis sur les femmes dans une situation pareille, nous nous demandons, est-ce que la prise en charge
peut-elle être acheminée à la prison? Est-ce que les autorités ne peuvent pas nous créer un couloir humanitaire urgent pour que les victimes de ces viols soient prises en charge de façon holistique?
Alors, quel genre de prise en charge comptez-vous apporter aux victimes exactement?
D'abord, la prise en charge médicale. Quand on parle de viol massif, c'est que nous estimons qu'il y a une femme qui a été violée par 2, 3 hommes ou 5 hommes dans cette situation de confusion catastrophique. Il faut que ces victimes soient prises en charge sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan juridique, parce qu'on doit identifier les auteurs de ces viols-là sur les femmes.
Avez-vous des matériels adéquats pour arriver à satisfaire surtout les victimes des viols, comme vous les dites?
Si l'accès aux acteurs humanitaires est accordé, nous sommes prêts pour apporter une assistance psychologique, juridique et pourquoi pas même médicale, parce que si on réfère ces survivantes dans les structures sanitaires, elles seront prises en charge pour que toutes ces victimes-là soient prises en charge et que leur vie soit tellement sécurisée.
Mais vous semblez être injuste parce qu'il y a aussi des cas où des femmes qui violent des hommes, mais vous ne plaidez que pour les femmes et les jeunes filles. Pourquoi pas pour les hommes?
Dans la situation qui prévaut dans la prison centrale de Makala jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'informations pour les cas des hommes qui seraient victimes aussi des cas de viol. Donc, de manière générale, il est tout à fait vrai et compréhensible que les hommes aussi peuvent faire l'objet des violences faites par les femmes. Mais de manière générale, c'est à faible pourcentage que les hommes soient victimes de ce genre de violences.
Que faire, Maître Pierre Bibombé, pour éviter de telles situations dans les jours à venir?
Il est vrai que le ministre de la Justice avait déjà commencé une telle bonne initiative de désengorger la prison centrale de Makala. C'est un plaidoyer. Aujourd'hui, les autorités judiciaires, en l'occurrence le magistrat, surtout des parquets, mettent les gens sous mandat d'arrêt provisoire. Mais pour des faits bénins, on doit remplir la prison avec des gens parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer des cautions pour leur liberté provisoire. Nous saluons d'abord les mesures provisoirement prises par le Conseil de sécurité et par même le ministre de la Justice pour interdire tout acheminement en prison des détenus en attendant l'ordre qui sera éventuellement donné.
Maître Pierre Bibombé, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, cher Blaise.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite que Pelé Kipelamondo, Élisée Tchikota et Billy Landry Betou ont concouru à sa réussite. Merci de l'avoir suivi.